C'est au cours de son deuxième voyage missionnaire que l'apôtre Paul et ses collaborateurs ont fondé les églises de la Galatie. La Galatie, c'était une province romaine qui se situait dans ce qui est actuellement la Turquie. Et après le départ de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, lorsqu'il eut implanté l'Église, structuré les diverses communautés chrétiennes, eh bien des pseudo-prédicateurs, des gens que l'apôtre appellera de faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ, de pseudo-prédicateurs, donc ont visité ces églises de la Galatie en apportant un message qui en fait dénaturait l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce que Paul se plaisait à prêcher, puisque Paul, par excellence, peut être appelé le prédicateur de la grâce, l'apôtre de la grâce. Et ces gens-là prétendaient que, à la fois en Jésus, on devait ajouter l'observation de la loi de Moïse pour être sauvé. Vous voyez ? Comme si Christ, sa mort et sa résurrection ne suffisaient pas, alors il fallait pratiquer la circoncision, et puis tous les rites, toutes les prescriptions que contiennent ou que contenait la loi de Moïse. Il s'agit là évidemment d'un évangile dénaturé qui, répétons-le, renversait l'évangile de la grâce. Nous connaissons ce texte, je vous dispense de le lire, je pense que vous l'avez entendu cité maintes et maintes fois dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et nous devons, voyez, nous aussi, nous maintenir dans la grâce de Dieu, vivre dans la pleine mesure de la grâce de Dieu, parce que c'est là seulement que nous pourrons trouver notre sécurité, notre paix, et conserver dans notre cœur cette espérance glorieuse du salut de notre âme. Et tout au long de l'épître aux Galates, je vous engage à la lire, l'apôtre Paul, avec vigueur, avec fermeté, et même avec une certaine sévérité, exhorte ces chrétiens de la Galatie pour qu'ils en restent, ou ils en reviennent plutôt, à l'évangile de la grâce. Et cette parole qui concernait ces chrétiens qui ont vécu il y a 2000 ans, eh bien nous concerne nous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? D'où procède-t-elle? Par qui nous parvient-elle? Comment nous est-elle communiquée? Comment la recevoir? Eh bien, la réponse, bien sûr, une fois encore, se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. La grâce, c'est cette faveur absolument imméritée que Dieu nous accorde comme un pur don de sa part. J'ai déjà dit que toutes les religions, tout au moins les religions monothéistes, n'est-ce pas, fonctionne grosso modo sur le même principe, à savoir que si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais le reste, si tu essaies d'être suffisamment gentil, agréable aux yeux de Dieu, alors peut-être tu auras quelques chances de recevoir un certain nombre de bénédictions de sa part. Eh bien, mes amis, l'Évangile va à l'encontre de ce raisonnement, en nous disant que ce n'est pas parce que nous allons accumuler un certain nombre d'œuvres méritoires que nous nous rendrons acceptables aux yeux de Dieu. Non, avec Dieu, tout est par grâce. Alléluia. Cette grâce qui consiste, je le répète, en sa faveur absolument imméritée, voyez, les mérites n'y sont pour rien, que Dieu nous accorde en son bien-aimé Fils Jésus-Christ, comme un pur don, non comme un dû, mais gratuitement, uniquement il nous l'accorde, sa grâce et sa faveur, par sa bonté sa miséricorde et son amour. Regardez. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, au verset 23, encore un verset bien connu, il est dit que le salaire du péché, la suite vous la connaissez, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, comme conséquence du péché, c'est un dû. C'est ce que tu mérites. C'est pourquoi le texte emploie ce terme de salaire. Un salaire, c'est pas un cadeau. Un salaire, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu as gagné, c'est ce qu'on te doit. Eh bien, le salaire du péché, ce que Dieu te doit, ce que tu mérites de sa part pour ton péché, c'est la mort. Par contre, et la précision est importante, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un dû, ce n'est pas la conséquence d'un acte méritoire, mais c'est un don gratuit. C'est donc tout le contraire du salaire. Et notre salut, voyez, notre espérance de pouvoir aller un jour dans le royaume des cieux trouve donc sa source, son origine uniquement dans la grâce de Dieu. J'en reviens à ce verset d'Éphésiens 2, verset 8, qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, frères et sœurs. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors là, sur mon petit papier, eh bien, il y a écrit « Et le peuple se lève pour dire Amen ». Non, restez assis. Hein. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et tout ce qui vient s'ajouter à la réception du salut, c'est également le résultat de la grâce de Dieu. Le don du Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. La sanctification, parce que nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, c'est la grâce de Dieu qui l'a produit. La capacité que Dieu nous accorde pour accomplir dans son œuvre un service efficace, c'est la grâce de Dieu. La garantie, l'assurance qui nous est offerte en Jésus de pouvoir persévérer pour accéder finalement au royaume des cieux, c'est la grâce de Dieu. Tout est par grâce. Et c'est par Jésus-Christ que la grâce de Dieu nous est transmise. Il en est le dispensateur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, dans le préambule de cet évangile, il est écrit ceci, n'est-ce pas ? Jean chapitre 1er, verset 14. La parole a été faite chair. C'est Jésus, ça. Le Verbe préexistant qui a été incarné. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il en est le dispensateur. Lui, Jésus. Nous vivons dans un pays qui a une certaine tradition religieuse que vous connaissez. Et dans cette tradition religieuse, eh bien, on vénère la mère du Christ, la Vierge Marie, n'est-ce pas, en disant dans cette fameuse prière, « Marie, pleine de grâce ». Mais voyez, cette expression est le résultat d'une erreur de traduction. Le texte littéral ne dit pas « Marie pleine de grâce », qui supposerait que c'est par elle que la grâce nous est transmise, mais le texte littéral dit « Marie reçue en grâce ». C'est pas pareil. Ça signifie non pas qu'elle est la dispensatrice de la grâce, mais qu'elle a reçu elle-même une grâce, celle de pouvoir concevoir dans son sein virginal le Fils de Dieu. Rien de plus. Elle n'est pas la dispensatrice de la grâce, elle en est bénéficiaire comme nous le sommes nous-mêmes. Le seul dépositaire et le seul dispensateur de la grâce de Dieu, c'est Jésus. Et cela résulte de son œuvre accomplie à la croix. Nous chantons ce bon Dieu cantique avec raison qui dit ceci: de la croix, la grâce coule. Vous voyez, tout procède de l'œuvre de Christ. Tout nous parvient au travers de la personne de Jésus. Tous les bienfaits, tout ce que je suis devenu en Christ, tout ce que vous êtes devenu, tout ce dont notre vie spirituelle, notre vie chrétienne est faite, c'est le résultat de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et en dehors de cette grâce, vous et moi, nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune capacité, aucune valeur. Et cette grâce, elle t'obtient uniquement par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais dites-moi, la foi elle-même est une grâce que Dieu nous accorde. Parce que ce n'est pas moi qui ai conçu la foi dans mon cœur. C'est pas moi qui l'ai préfabriquée, c'est pas moi qui l'ai suscitée dans mon propre cœur. Non, non, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui me l'a transmise, qui me l'a communiquée par le moyen de sa parole. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, voyez-vous, si vous et moi, nous avons pu manifester, développer la foi, ça ne procède pas de nous, c'est le don de Dieu. Et c'est le résultat de sa grâce. Alléluia. Qui a fait que par sa parole, son cœur, mon cœur, a été touché et que j'ai pu ainsi recevoir sa bénédiction. Notez ceci cependant, c'est que la grâce de Dieu ne nous incite pas à la paresse ou à l'oisiveté dans le domaine spirituel. Il ne faudrait pas en conclure que, puisque c'est Dieu qui fait tout, je n'ai donc rien à faire. Non, certes, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais l'Écriture nous enseigne que nous sommes sauvés pour les œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Non pas sauvés par les œuvres, mais sauvés pour les œuvres. Ce n'est pas une option, ça. Ce n'est pas une option. Et c'est Dieu qui, par sa grâce, a préparé pour nous, pour chacun de nous, un certain nombre d'œuvres, œuvres d'amour, œuvres de justice, œuvres de sainteté, œuvres d'obéissance, œuvres de service. Et c'est encore par sa grâce qu'il nous rend capables de les accomplir selon les capacités, les dons, les talents qu'il veut bien nous communiquer. L'apôtre Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, dira ceci: ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité, elle vient de Dieu. Alléluia. Je vous dis que tout est à grâce, par grâce. Tout ce que tu fais, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu réalises dans le cadre de l'œuvre de Dieu, pour le service, pour la cause du Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui t'en rend capable. Et si tu peux exercer quelques dons spirituels qui va faire du bien à l'Église, qui va édifier le peuple, mais c'est la grâce de Dieu. Ça ne procède pas de toi. Ce n'est pas ta capacité personnelle. Ce n'est pas ton charisme humain et charnel. Non, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux accomplir quelque chose de valable dans le cadre de l'œuvre de Dieu, si le Seigneur dans sa miséricorde se plaît d'une manière ou d'une autre à se servir de toi, mais c'est la grâce de Dieu. Et si tu témoignes à un âme perdu que cette personne vient écouter l'Évangile, que son cœur s'ouvre et qu'elle soit sauvée. Mais ce n'est pas ta dextérité, ta compétence pour présenter les vérités bibliques qui ont touché son cœur. C'est la grâce de Dieu. Si une prédication peut atteindre le cœur des auditeurs, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la capacité personnelle, l'art oratoire développé par le prédicateur. Non, mais non! C'est la grâce de Dieu, mes amis. Quand nous admirons une œuvre d'art, quand nous contemplons un tableau, n'est-ce pas, je sais pas moi, la Joconde de Léonard de Vinci ou autre chose, on n'admire pas le pinceau, on n'admire pas la palette de l'artiste, on admire l'artiste parce que c'est lui qui produit l'œuvre. Le pinceau, la palette ne sont que des instruments. Eh bien, mes amis, vous et moi, nous ne sommes que des instruments dans la mesure où nous nous rendons disponibles pour que la grâce de Dieu agisse au travers de nous. Il en résulte que nous ne pouvons, nous ne devons concevoir aucun orgueil, aucune vanité, aucune prétention quant à ce que nous faisons, même pour le Seigneur. Paul disait, parlant de lui-même, « ce que je suis !» Et Dieu sait quand même qu'il a développé un ministère d'une envergure considérable, exceptionnelle. Il disait « ce que je le suis par la grâce de Dieu !» Et parlant même des succès, des résultats que son ministère apostolique avait, il disait « non pas moi toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, la grâce de Dieu qui est avec moi. » Nous recevons de la même manière le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Vous voyez, les Galates, ils avaient perdu ça de vue. Alors, l'apôtre Paul est obligé de les sermonner un petit peu sévèrement, rudement, dirons-nous. Et dans cet épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 2, il leur dit ceci, « Voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ?» Il s'agit de l'Esprit de Dieu, bien sûr. « Ou par la prédication de la foi. » Le baptême du Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. J'ai en tête le témoignage de ce frère qui est maintenant auprès du Seigneur. Alors il venait de se convertir depuis peu et il désirait être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et ça ne venait pas. Alors il priait, alors il jeûnait, alors il passait du temps devant Dieu et ça ne venait toujours pas. Et il se disait, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand même? Moi je fais tout ce que je peux et tu ne me bénis pas. Puis il a relu ce texte de Acte 2 dans lequel il est dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don. Bien sûr qu'il faut aspirer, désirer, chercher, prier pour recevoir les bénédictions dans le domaine de la vie de l'esprit. Mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas à payer à coup de prière l'obtention du baptême du Saint-Esprit ou des dons spirituels. Il s'agit là encore d'un don de la grâce divine répandue sur nous par Jésus-Christ. Tout est par grâce. C'est le message que je veux laisser sur votre cœur. Alors, concernant la grâce de Dieu, il y a deux écueils, deux pièges à éviter. D'abord, pensez que la grâce autorise tout. On peut faire n'importe quoi, Dieu fait grâce. Non. L'Écriture s'inscrit en faux contre ce genre de raisonnement. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 20, il est dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le chapitre 6 démarre avec cette parole, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et puis, nous trouvons d'autres textes, n'est-ce pas, dans ce sens, dans l'Épître aux Galates, justement, au chapitre 5, au verset 13, il est dit, n'est-ce pas, que, eh bien, nous ne devons pas nous abandonner à notre nature charnelle, mauvaise. Galates, chapitre 5, verset 13, le texte nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté ?» Seulement, ne faites pas de cette liberté un principe de vivre selon la chair, c'est-à-dire selon les tendances de notre nature humaine, qui est mauvaise par définition. Dans l'épître de Paul à Tite, n'est-ce pas, il est encore écrit ceci, chapitre 2 et le verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Non, non, la grâce n'autorise nullement la pratique du péché, bien au contraire. La grâce nous promet, nous offre la victoire sur le péché qui s'expérimente par la foi. Dans l'Épître aux Romains, pas, au chapitre 6, vous lirez ce chapitre avec attention, lentement, en réfléchissant. Eh bien, nous voyons que non seulement Jésus est mort pour nous, mais également l'Écriture nous apprend que nous sommes morts avec lui. Vous comprenez ça? Il est mort pour nous, pour expier nos fautes, subissant à notre place le châtiment que notre péché méritait, recevant en lui-même la sanction de nos propres péchés afin que nous soyons épargnés. Mais plus encore, non seulement il est mort pour nous, l'Écriture dit que nous sommes morts avec lui, morts au péché, morts à notre ancienne vie, de telle sorte que le péché n'exerce plus pour celui qui met sa foi en Jésus son pouvoir, son influence sur nos vies. Le péché est détruit, neutralisé, vaincu, mis à mort, afin que nous n'en soyons plus des esclaves, que nous soyons totalement et définitivement affranchis et libérés. Gloire à Dieu, mort avec Christ. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais je vous le dis pour essayer de vous faire agir. Ce matin, devant moi, quand vous êtes convertis, il y a que des cadavres. Vous êtes morts, vous êtes ressuscités en lui, pour vivre avec lui une vie nouvelle. N'acceptons pas que le péché domine sur nous. Bien sûr, on pourrait dire, mais les choses du passé, les péchés grossiers, je ne sais pas moi, la fornication, l'adultère, l'alcool, la drogue, et j'en passe, ce n'est pas des meilleurs, tout ça c'est fini, oui. Mais des péchés que nous pourrions à tort considérer comme étant plus anodins. La jalousie, la convoitise, l'irritation, la colère, n'est-ce pas, la rancune, le ressentiment, la critique. Mais de tout cela aussi, Christ veut nous affranchir par sa grâce. N'acceptez pas la domination du péché. Ne dites pas c'est ainsi, c'est comme ça, c'est ma nature, c'est mon caractère, je ne puis rien y changer. Non, réalise, crois, affirme, proclame et saisis par la foi que tu es mort avec Christ et vivant pour lui, vivant pour lui. Voilà, ça c'est la grâce de Dieu. Elle libère, elle affranchit, n'est-ce pas ? Et comprenons que nous devenons agréables à Dieu, non au travers de nos actes méritoires, hein, ou de nos efforts, mais en son Fils bien-aimé. Voilà, quand le Père nous regarde, comment me voit-il ? Comme des misérables. Non, il nous voit comme il voit son Fils Jésus-Christ. Alléluia ! Il y a parfois des chrétiens qui portent sur eux-mêmes un regard négatif, à l'extrême. Bien sûr, il ne s'agit pas de se prendre la tête. Bien sûr, il ne s'agit pas de se gonfler de vanité, de prétention, d'orgueil. Mais il ne s'agit pas non plus de s'auto-dénigrer en disant « je suis misérable ». On le sait que tu es misérable. Mais de pauvres que nous étions, Christ nous a enrichis par sa grâce. Et quand Dieu porte son regard sur toi, il te voit au travers, je dirais, du filtre de Jésus-Christ. Il te regarde comme il contemple son Fils bien-aimé. C'est dans la foi, dans la grâce que se trouve notre sécurité. Comment puis-je être sûr que je vais aller jusqu'au bout du chemin ? Je n'ai pas posé cette question. Je me suis posé des fois. Jamais. Aujourd'hui, je suis plein de bonnes intentions. Mais qui me dit que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, enfin dans 20 ans, je suis sûrement plus là, hein, mais je serai encore dans le coup, je serai encore attaché au Seigneur. Est-ce que le diable ne va pas me préparer un coup de jarnac pour me faire trébucher, glisser, revenir en arrière? Non, je puis avoir l'assurance de persévérer jusqu'au bout. Comment? Par sa grâce. Apôtre Paul dira, 2e à Timothée, chapitre 1er, verset 12, « Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Alléluia. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur. Le salut, c'est un dépôt. Il n'y a aucune banque de dépôt qui peut vous promettre un rendement aussi important. Le dépôt, le salut. Eh bien, c'est Dieu qui a la puissance de garder mon dépôt. Alléluia. Et je peux être ainsi sûr, non pas en comptant sur moi, mais sur sa grâce, d'aller par sa grâce jusqu'au bout du chemin. Bien sûr, pas question d'être désinvolte ou laxiste, mais réaliser que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans le salut. L'apôtre Pierre dira que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, gardés par la puissance de Dieu pour le salut. Donc ça, c'est le premier Pierre. Pensez que la grâce autorise tout, qu'on peut tout faire et que tout ira malgré tout très bien. On peut s'abandonner allègrement au péché, c'est pas grave, la grâce va passer par-dessus. Non, il y a une deuxième impasse, un deuxième piège qu'il nous faut éviter. Retourner à la loi après avoir connu la grâce. Et c'était le problème des Galates. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates, au verset 1er, l'apôtre dira à ces braves gens, n'est-ce pas ? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Les Galates étaient tombés dans ce piège. Ils pensaient pouvoir se rendre agréable à Dieu par l'observation des prescriptions de la loi de Moïse. Et quand on lit les épîtres, pas seulement celles de Galates, mais les autres, on voit que durant tout son ministère, Paul a dû lutter contre ces pseudo-chrétiens judaïsants qui, à l'œuvre de Christ, voulaient ajouter cet asservissement aux exigences de la loi. Le sabbat, les fêtes juives, la circoncision, etc. Et vous savez, l'histoire n'est qu'un recommencement perpétuel. Cette tendance de revenir à la loi, elle existe encore aujourd'hui au milieu du monde évangélique. Elle existe encore aujourd'hui au sein du monde évangélique. C'est une tentation pour l'homme de vouloir toujours se justifier par la pratique de certaines œuvres. Pourtant, l'Écriture dit que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La loi a pour fonction de nous donner conscience du péché. Elle nous montre que nous sommes incapables de satisfaire les exigences divines. Elle produit la condamnation et la malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui n'accomplit pas tout ce qui est écrit dans la loi ». Et certains, au sein même du monde évangélique, se croient encore obligés d'observer, par exemple, le sabbat. Je connais des chrétiens qui observent le sabbat parce qu'ils se disent « c'est quelque chose que Dieu a institué ». Que Dieu a institué, mes amis, pour l'Ancien Testament. Et c'est une erreur manifeste. C'est une tromperie dénoncée par la parole de Dieu. Dans l'Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 17 ou 16, vous allez le lire avec moi et moi avec vous, ça va s'afficher, je pense, sur l'écran. Il est dit ceci, Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc, écoutez ça, si vous étiez tenté, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Vous voyez, il y a une allusion là aux règles alimentaires de l'Ancien Testament. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il ne faut pas manger le reste. Et il y a des chrétiens qui aujourd'hui sont attachés à ça. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, une fête juive, ou d'une nouvelle lune, puisque chaque mois, selon la loi de Moïse, il y avait des sacrifices qui devaient être offerts dans l'Ancien Testament. Ou au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Le sabbat n'était que le symbole, le signe annonciateur du repos que nous trouvons en Christ. Repos parce que nous savons que nous sommes réconciliés avec le Père, déjà ici-bas. Et repos définitif lorsque nous serons dans sa présence glorieuse, loin des combats, des luttes, des épreuves que nous aurons connues ici-bas. C'est pourquoi c'est une erreur dans laquelle certains se sont fourvoyés, même parmi les chrétiens, j'espère qu'il n'y en a pas au milieu de nous, où sont tombés certains qui veulent revenir à ces pratiques. À propos du sabbat, comment se fait-il que les chrétiens, les premiers, parce que nous on est nés de la dernière pluie, hein, se fait-il que les chrétiens soient passés du sabbat, observé par les juifs, au dimanche? C'est très simple. C'est parce que le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. Et dès le départ, les chrétiens ont eu l'habitude de se réunir pour célébrer en ce jour-là la résurrection du Christ. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le raconte, c'est la parole de Dieu. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, il est question là d'une réunion mémorable tenue par l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 20, je vais vous trouver le passage. Voyons, je n'ai pas marqué le verset. Voilà, verset 7. Le premier jour de la semaine. Ok? Le premier jour de la semaine. Donc le dimanche. Parce que c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, c'est-à-dire pour participer à la Sainte Cène. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Rassurez-vous, ce ne sera pas comme ça aujourd'hui. Hein? Voilà. Vous voyez, c'était dans la première aux Corinthiens aussi, au chapitre 16, concernant les offrandes, la collecte des offrandes, parce que ça se pratiquait déjà chez les premiers chrétiens. Eh bien, l'apôtre Paul dit ceci, chapitre 16 de la première aux Corinthiens, verset 1er, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Voyez, dont le sabbat, c'est fini ça. C'est l'image du repos que nous connaissons en Christ, et il ne faut pas s'attacher à la lettre dans ce domaine-là, mais il faut s'attacher à l'esprit. Quant à la loi, ce qu'il faut retenir, ce sont les principes moraux, bien sûr. Quand la loi me dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », bien sûr que ça, il faut continuer à l'observer. Non seulement c'est recommandé dans le Nouveau Testament, mais le commandement est amplifié. Puisque Jésus dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez moi, je vous dis, aimez aussi vos ennemis. Mais les prescriptions matérielles, voyez, les règles alimentaires, le sabbat, les nouvelles lunes et tout le reste, ben c'est fini ça. Christ est l'accomplissement, dans le sens de l'aboutissement et de la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, nous dit la parole de Dieu. Notons ceci, je vais terminer par là. Les bonnes œuvres que, en tant que chrétiens, nous pratiquons, le service que nous faisons pour le Seigneur, la piété, la prière, la méditation de la parole, j'espère que ça vous arrive de temps de lire la Bible, le témoignage que nous rendons aux âmes perdues pour qu'elles soient sauvées, tout cela est excellent, mais tout cela doit être accompli, non dans un esprit de servitude, mais comme une joyeuse obéissance de fils et de filles aimant envers notre Père. On peut tout faire dans un esprit, hélas, légaliste. Il faut. C'est pas ça l'amour, hein? Quand vous offrez, messieurs, j'espère que ça vous arrive de temps en temps, un bouquet de fleurs à votre femme, comment le faites-vous?
Il faut. Ah, il faut, hein? Il faut, c'est mon devoir.
Vous n'avez rien compris à l'amour, hein, si c'est ça. Hein? a besoin de passer un stage. Hein? Non, ça doit venir, enfin ça doit venir du cœur. Ce matin, je me suis levé, j'ai ouvert les volets, il y avait une belle rose. Je suis allé l'accueillir. Je l'ai coupée, je l'ai amenée à Hélène. Elle dormait un point fermé. Oh, j'étais déçu, hein? Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis pas dit, il faut. Tu vas le faire parce qu'il faut, hein? C'est le jour, c'est l'heure. Non, c'est le cœur qui parle. Vous voyez? Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça doit être pareil. Vous comprenez ça? On peut tout faire avec un esprit de légalisme. Il faut que je vienne au culte. C'est dimanche. D'ailleurs, si je ne viens pas, la prochaine fois, le pasteur, il foncera les sourcils. La prochaine fois, j'y serai pas, alors. Hein. Il faut que je témoigne, sinon, malheur à moi. Il faut que je lise la Bible, sinon le ciel va me dégringoler sur la terre. Il faut. Non, il ne faut pas. Il faut que ce soit ton cœur qui parle. Bien sûr que tu dois lire. Bien sûr que tu dois témoigner, que tu dois servir, que tu dois mettre toute ta vie à la disposition du Seigneur. Mais pas dans un esprit légaliste. Vous comprenez ça? Dans un esprit d'amour. C'est la grâce de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 8, nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Amen. Et c'est comme des fils et des filles bien-aimés que nous devons agir et réagir vis-à-vis de notre Père. Vous voyez ? Un esclave, parce que à l'époque du Nouveau Testament, l'esclavage dominait. Un esclave, il n'avait pas le choix. Il obéissait scrupuleusement, parce que s'il n'obéissait pas, il risquait lourd, il risquait gros. Beaucoup d'esclaves pour une babiole étaient crucifiés, alors ils obéissaient avec crainte et tremblement. Un enfant de Dieu, bien sûr qu'il a le respect de Dieu, il conserve la crainte de Dieu dans ce sens-là, dans son cœur. Mais c'est une crainte filiale, faite d'amour, de vénération et de respect. Et tout ce qu'il fait, ce n'est pas dans un esprit d'esclavage. Le front baissé, les chines courbées, mais dans un esprit d'amour. Parce qu'il vit dans la grâce de Dieu. Amen. Alors, vous et moi, je vous assure, en vous racontant ça, et j'en prends plein la tête, hein, parce que je me l'adresse aussi. Apprenons à vivre dans la grâce de Dieu. Vivons ce que la parole appelle, quelque part, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vivons dans la grâce, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. On prie ?